Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.
Bonjour Bamako, vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM sur le 99.5 FM. Je m'appelle Anthony Lefebvre et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de mon émission Zone de Contact. Au programme aujourd'hui, une délégation de RCA attendue au Forum Armé 2023 à Moscou, l'Égypte qui a encore acheté une forte quantité de blé russe et un boxeur américain qui modifie son prénom en l'honneur de Vladimir Poutine. Le 13 août 1960, la République centrafricaine a proclamé son indépendance. Un responsable centrafricain est revenu sur cette date et sur la situation linguistique dans le pays. Le Mali a adopté une nouvelle constitution qui retire aux Français le statut de langue officielle. Un ex-ministre malien de l'éducation décryptera les raisons de ce choix. Le ministre centrafricain de la Défense, Claude Rambaud-Biro, envisage de se rendre en Russie la semaine prochaine. Léon Dodonou Punagaza, ambassadeur de la RCA à Moscou, a déclaré à Spoutnik qu'il participera au Forum international armé 2023. Le haut diplomate a déclaré que le ministre de la Défense centrafricain sera à la tête d'une délégation composée de hauts gradés militaires. En mai dernier, M. Rambaud-Biro avait annoncé à Spoutnik que Moscou et Banki étaient en train de négocier sur la construction d'une base militaire russe en RCA. La date de son ouverture n'avait pas été définie par le ministre. Pour rappel, le Forum militaro-technique armé se déroule tous les étés au parc d'exposition de l'armée russe Patriote, dans la région de Moscou. Cette année, cet événement aura lieu du 14 au 20 août. Des délégations de 108 pays étrangers y sont invitées. 63 États ont confirmé leur participation. Plus de 300 événements font partie du programme scientifique et commercial du Forum. Ils seront consacrés au développement des forces armées, de l'industrie de défense russe et de la coopération technique et militaire internationale. L'Égypte a passé une nouvelle commande de blé à la Russie. L'autorité générale en charge des approvisionnements a annoncé à une agence de presse avoir acheté 235 000 tonnes de blé russe dans le cadre du dernier appel d'offres international. La commande comprend 175 000 tonnes qui sera expédiée entre le 15 et le 30 septembre, ainsi que 60 000 tonnes qui, elles, partiront en octobre. Si ce pays africain est un client habituel du blé russe, ce nouvel achat est une surprise. Début août, le Caire avait acheté au moins 300 000 tonnes de blé russe au cours d'un précédent appel d'offres. Pour rappel, depuis juillet 2022, les approvisionnements en blé de la Russie vers l'Égypte ont dépassé les 8 millions de tonnes selon l'ambassade russe en Égypte. Un résultat significatif qu'il faut mettre dans un contexte de sanctions occidentales qui rendent plus compliquées les exportations russes de produits agricoles. C'était pour lui le meilleur moyen d'exprimer son admiration envers Vladimir Poutine. Le boxeur américain professionnel Kevin Blue Johnson a déclaré avoir modifié son prénom en empruntant le patronyme du président russe. Dans une interview accordée à un média russe, celui qui s'appelle désormais Kevin Vladimirovitch a souligné qu'il était maintenant 100% russe. Ce n'est pas la première fois que ce sportif de 43 ans exprime ses sentiments chaleureux envers la Russie et Vladimir Poutine. En mars dernier, il a déclaré vouloir déménager à Moscou et prendre la nationalité russe afin que la Russie puisse être sa maison. Pour rappel, Kevin Vladimirovitch Johnson, puisqu'il faut l'appeler ainsi désormais, est devenu professionnel en 2022. Il a disputé 59 combats en catégorie poids lourd pour un total de 36 victoires, dont 20 par KO, 21 défaites et 2 matchs nuls. Mesdames, Messieurs, je vous confirme que vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur Maliba FM à Bamako. Moi, Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission Zone de Contact, je vous souhaite la bienvenue. Le 13 août 1960, la République centrafricaine a proclamé son indépendance. L'URSS l'a reconnue le même jour. Très rapidement, des relations diplomatiques ont été établies entre Bangui et Moscou. Elles ont démarré le 7 décembre 1960. Depuis 1966, plus de 500 citoyens centrafricains ont terminé leurs études en URSS, diplômés. Des accords de coopération sur le commerce et dans le domaine économique et technique ont été signés. Depuis 2018, Bangui reçoit de la Russie une assistance militaire gratuite. En 2021, un monument en hommage aux instructeurs russes a par ailleurs été inauguré dans la capitale centrafricaine. Pour Spoutnik Afrique, Samuel Feizounam Ouanfio, directeur général de l'Institut national de recherche et d'animation pédagogique du ministère de l'Éducation nationale de la RCA, est revenu sur cette date importante pour les Centrafricains. Il a également fait le point sur la situation linguistique dans le pays. Écoutons-le tout de suite.
Il y a 63 ans, votre pays a obtenu son indépendance. Comment, à votre avis, cette date a changé la vie du peuple centrafricain et que signifie cette date pour vous personnellement ?
Merci, monsieur le journaliste, de m'avoir posé cette question. Je suis donc un centrafricain. Je vis en République centrafricaine et grâce à cette date de 13 août, que nous sommes aujourd'hui la festivité pour célébrer donc 63e anniversaire de programmation de l'indépendance de la République centrafricaine. À un moment donné, c'était Lubangui Chari qui est devenu la République centrafricaine. Et aujourd'hui, les Centrafricains sont très heureux et très contents de célébrer l'anniversaire de l'indépendance de notre pays. Et en ce qui me concerne particulièrement, le jour de 17 date de 13 août, c'est une date qui doit amener tous les Centrafricains à réfléchir. Qu'est-ce que nous avons eu à faire? Qu'est-ce que nous avons eu à réaliser? Quels sont les défis que nous aurons à relever par rapport au développement de notre pays? L'exemple aujourd'hui, si quelqu'un est indépendant, c'est qu'aujourd'hui, si vous avez un enfant qui est majeur, il quitte chez vous, il s'installe à son propre compte. Il prend ses responsabilités avec sa petite famille pour se développer, pour lancer donc les affaires et chercher à trouver un équilibre dans la vie. Mais aujourd'hui, personnellement, j'ai essayé de voir et puis je me suis dit, depuis aujourd'hui 63 ans, j'ai constaté que la République centrafricaine n'est pas encore développée comme les autres. Quand on parle de développement d'un pays, quand on dit que c'est un pays indépendant, nous devons voir ce pays avoir une économie forte, une éducation forte, avec des infrastructures qui permettent donc à ce pays-là de se développer. Mais jusqu'à aujourd'hui, je me pose la question, notre pays est loin derrière les autres. Pourquoi nous sommes en retard par rapport à notre indépendance et par rapport aux autres? C'est ce que je peux vous dire, monsieur le journaliste, concernant votre question que vous m'avez posée.
Et à votre avis, est-ce qu'après plus de 60 ans d'indépendance officielle, les Centrafricains ont réussi à prendre leur destin en main?
Non, je pense que pour le moment, on n'a pas encore réussi à prendre notre destin en main. Si on arrive à prendre notre destin en main, c'est que nous devons voir aujourd'hui la République centrafricaine se développer. Nous devons voir aujourd'hui notre pays émergent comme les autres pays. Aujourd'hui, je crois que depuis l'indépendance, une partie des années de notre indépendance, la République centrafricaine a connu de crises à répétition qui ont freiné aujourd'hui le développement de ce pays. Donc aujourd'hui, les Centrafricains, nous devons nous poser la question, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour développer notre pays comme les autres sont en train de faire dans leur pays? C'est question de vision et c'est question de responsabilité. Et chaque Centrafricain doit se poser cette question. Donc jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore pris en compte le destin de notre pays en main parce que nous sommes en retard avec tout ce que les autres sont en train de faire dans leur pays en ce qui concerne le volet économique, le volet éducation, le volet santé. Et sur tout le plan, nous sommes vraiment en retard. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est une question que nous devons tous poser, nous Centrafricains, pour dire que dans un moment donné de la vie, qu'est-ce que nous devons prendre comme destin pour le développement de notre pays? Et ça, c'est à poser aux hommes et aux femmes au niveau de la République centrafricaine pour qu'ensemble, nous puissions conjuguer nos efforts, pour que nous puissions réfléchir par rapport à l'indépendance de la République centrafricaine. Qu'est-ce que nous devons faire pour que ce pays puisse se développer comme les autres pays qui nous permettent à ce que les Centrafricains puissent vivre dans des conditions décentes?
Quand on parle de l'indépendance, c'est quand même, il y a aussi un concept de dépendance, et dans le cadre de votre pays, c'était la dépendance de la France. Quelle est aujourd'hui l'image de la France au sein de la population centrafricaine?
Bon, moi, je peux dire qu'aujourd'hui, à un moment donné, nous avons, certes, c'est la France qui a eu à coloniser donc, les autres, les pays pays africains et parmi ces pays, c'est la République centrafricaine. Et aujourd'hui, la position de la France vis-à-vis des Français, c'est une situation mitigée. Il y a d'autres centrafricains aujourd'hui qui acceptent pour dire que sans la France, nous ne pouvons pas développer. Il y a d'autres qui disent que la cause de malheur aujourd'hui de la République centrafricaine ou bien des centrafricains, c'est la France. Donc, le point de vue par rapport à la situation de la France est aujourd'hui mitigé au milieu des centrafricains. Et d'aucuns disent qu'aujourd'hui, la République centrafricaine n'a pas connu son développement parce qu'il y avait la mainmise de la France sur les ressources minières, de la République centrafricaine surtout, et on ne pouvait pas se développer parce qu'à un moment donné, quand une autorité du pays, un président de la République, qui demande à ce que nous puissions exploiter les ressources ou autre comme ça, du coup, on le dégage par un coup d'État et on fait installer les autres. Ça fait qu'aujourd'hui, nous connaissons des crises à répétition et qui a fait qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas exploiter notre pays. Et du coup, d'autres centrafricains disent que la cause de notre développement de la République centrafricaine, ils indexent donc la France par rapport à cela.
Selon vous, quel modèle de développement serait préférable pour votre pays? Quel partenariat devriez-vous peut-être développer en premier lieu?
Aujourd'hui, je peux peut-être répondre pour dire que nous pouvons amorcer sur la base de ce que sont les... Excellence, Monsieur le Président de la République a dit qu'aujourd'hui, la République centrafricaine compte 623 000 km². Et nous pouvons mettre en exergue ce qu'on appelle le partenariat gagnant-gagnant où tout le monde doit avoir sa place au sein de la République centrafricaine pour permettre à ce que chacun, par rapport à sa capacité, puisse se diversifier et exploiter les ressources pour permettre à ce que la République centrafricaine puisse se développer. Et aujourd'hui, ce qui est important, aujourd'hui, il va falloir mettre un accent particulier sur l'éducation, la formation. Il faudrait mettre ce qu'on a en exergue, ce qu'on appelle l'éducation transformationnelle, pour permettre à ce que, à travers l'éducation, le pays puisse se doter de compétences pour permettre à ce que les ressources de la République centrafricaine soient donc exploitées, valorisées, pour que ce pays puisse se développer comme les autres pays.
Merci beaucoup. En 1960, au moment de l'indépendance de la République centrafricaine, le président David Dacko a déclaré, je cite, « Nos tribus ont perdu leur tradition, leur mœurs », et d'ajouter, ce serait pour nous une mission difficile que de rétablir dans notre pays, en République centrafricaine, les vieilles traditions africaines. La situation semblait-elle vraiment désespérée à l'époque quand on parle de cet aspect? Et les traditions centrafricaines ont-elles pu être rétablies depuis lors?
Oui, moi je crois qu'aujourd'hui la mentalité des centrafricains ont beaucoup plus évolué. Hein. Vous savez qu'à un moment donné, les centrafricains, peut-être à un moment donné, ils ont perdu ce qu'on appelait donc leur base traditionnelle. Et aujourd'hui, ce qui est important, il va falloir revenir sur les fondamentaux de la République pour permettre à ce que tous les centrafricains puissent connaître d'abord ce qu'on appelle leur origine, et leur devoir et leur obligation. Par rapport à ce que le président David Dacko disait à un moment donné. Il disait ça parce qu'à un moment donné, c'était pas que les Centrafricains qui agissaient en leur nom, mais c'est les autres qui agissaient à la place des Centrafricains. Donc aujourd'hui, la mentalité des Centrafricains aujourd'hui a évolué. Les Centrafricains veulent aujourd'hui ne pas demander à ce que c'est les autres qui parlent à leur front, à leur place, mais ils veulent à ce que c'est les Centrafricains eux-mêmes qui prennent en main leur destin et qu'ils parlent à leur nom propre. Et la mentalité a évolué avec ce que les nouvelles autorités du pays sont en train de mettre en place comme les stratégies de développement. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, les Centrafricains devaient s'entendre entre eux, dire que ce sont nos querelles intestines, politiciennes, mais regardons en avant. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour le développement de notre pays? Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? Quelle éducation? Quelle économie? Quelle infrastructure pour le développement de notre pays? Et tout ça, ça mériterait à ce que les Centrafricains eux-mêmes se retrouvent pour définir donc des axes d'intervention pour leur permettre d'analyser ce qui se fait et que nous puissions avoir un espace comme les autres pour amorcer le développement de notre pays en comptant sur les valeurs républicaines que les autorités impliquent aujourd'hui.
Merci beaucoup. La langue est un élément important des traditions nationales. Dans les premières constitutions du pays, le Sango avait le statut de langue nationale. Le français, celui de langue officielle. Depuis 1991, les langues officielles sont le Sango et le français. Le Sango est resté la seule langue nationale. La République centrafricaine a récemment organisé un référendum pour décider de l'adoption d'une nouvelle constitution. Est-ce qu'il y avait des initiatives pour modifier à nouveau le statut des langues dans votre pays ?
Non, jusqu'à aujourd'hui, moi je pense que merci d'abord pour la question que vous posez pour la langue. Nous savons qu'aujourd'hui, nous avons des ethnies en République centrafricaine qui utilisent leur patois. Mais aujourd'hui, nous sommes un pays béni par Dieu et grâce à la langue Sango qui est parlée sur l'ensemble du territoire, qui est entendue par l'ensemble des Centrafricains, ça fait donc la fierté et la force des Centrafricains. Et du nord au sud, et du sud à l'est, de l'est à l'ouest, nous utilisons la langue Sango, qui est donc notre langue nationale, qui est aussi une langue officielle que nous utilisons aujourd'hui dans le pays. En plus de cela, nous avons donc la langue française que nous utilisons, qu'on disait qu'à un moment donné, c'était une langue officielle. Mais n'oublions pas qu'aujourd'hui, dans les écoles, nous enseignons ce qu'on appelle l'anglais, il y a l'espagnol, il y a l'allemand et autres. Mais ce sont les deux langues-là qui sont aujourd'hui privilégiées en République centrafricaine, c'est-à-dire le Sango qui est la langue nationale et la langue nationale officielle, je peux me permettre de le dire, et il y a aussi le français. Mais nous sommes en train de voir avec tout ce que nous avons comme potentialité dans le pays pour dire qu'il va falloir que nous puissions diversifier maintenant ce qu'on appelle l'enseignement de la langue. En plus de ce que nous avons comme les langues d'enseignement en République centrafricaine, qui est donc le français, qui est donc une langue officielle d'enseignement, nous sommes en train de voir au niveau du ministère de l'Éducation comment introduire donc la langue Sango comme la langue de transmission dans le système éducatif. Et cela va permettre à ce que nous puissions développer donc le curriculum, les manuels scriptés d'enseignement et former les enseignants à l'utilisation de la langue Sango comme la seconde langue d'enseignement dans le système éducatif centrafricain. Et là, ça permettra à ce que ça soit évalué parce que l'expérience a montré que si les enfants commencent à apprendre dans leur langue locale, ils sont beaucoup plus compétents que les autres qui commencent leurs études directement en d'autres langues, c'est-à-dire peut-être en langue française. Donc nous allons donc expérimenter cela pour voir si c'est positif, l'évaluation nous donne une positivité, ça permettra à ce que nous puissions vulgariser ça dans tous les établissements de la République centrafricaine. Tout dernièrement aussi, nous étions donc en Russie, nous nous sommes dit que la RCA, à un moment donné, a bénéficié de l'appui technique de nos partenaires de la Fédération de Russie qui étaient ici, qui découvrent dans les domaines scientifiques, mais il va falloir que nous puissions mettre en exergue notre coopération aujourd'hui avec la Fédération de Russie pour introduire l'enseignement de la langue russe au niveau de l'INES, et les accords ont été signés avec les universités de la Fédération de Russie pour permettre à ce qu'il y ait des échanges dans ce domaine, pour permettre à ce que nous puissions diversifier l'enseignement de la langue, pour permettre à ce qu'il y ait la fluidité de mission entre ces pays que nous développons la coopération, pour qu'une partie des Centrafricains puisse comprendre la langue russe, comprendre la langue anglaise, comprendre la langue française, comprendre la langue Sango, qui les langues permettront de devenir donc un vivier de développement dans le pays. Donc aujourd'hui, les langues jouent un rôle très 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 important dans le développement du pays. Donc c'est à nous de voir comment capitaliser cela pour nous permettre de développer notre pays à travers les multiples coopérations que nous avons donc avec les autres pays partenaires.
Quel est le rôle du développement des langues nationales et locales pour le renforcement de la souveraineté et l'identité de votre pays, de la République centrafricaine et de l'Afrique en général ?
Ce qui est très important aujourd'hui à relever dans le cadre de notre entretien, c'est que si nous avons aujourd'hui les textes fondamentaux du développement des pays, par exemple la République centrafricaine, il va falloir que ces textes-là soient traduits en langue nationale pour permettre la meilleure appropriation par la population. Moi, je peux dire qu'aujourd'hui, plus de 60% de la population centrafricaine est analphabète. Donc je crois qu'aujourd'hui, nous avons voté donc pour le référendum par rapport à la nouvelle constitution. Il faudrait que les textes fondamentaux soient traduits donc en langue nationale, soient vulgarisés, soient expliqués pour permettre à ce que les Centrafricains puissent bien s'en approprier, pour qu'eux-mêmes ils puissent comprendre le contenu de ces textes fondamentaux, et ça permettra à ce qu'eux puissent comprendre les fonctionnements, les règles de fonctionnement, pour permettre à ce que chacun puisse se conformer à cela. Et si on arrive à mettre en exergue au niveau, par exemple, de l'Union africaine, ou bien au niveau de la CEMAC, au niveau de la CAC, tous ces textes que les gens traduisent, par exemple, en français, en anglais, il va falloir que nous puissions traduire cela en langue nationale, expliquer et vulgariser. Comme ça, toute la population de l'Afrique pourra s'en servir et connaître exactement ce qu'ils doivent faire à travers la langue. Donc, je peux dire qu'aujourd'hui, la langue nationale joue un rôle très important. Donc, c'est un vivier pour permettre à ce que nous puissions passer des informations sur les fondamentaux, et ça servira à ce que les gens puissent connaître comment ils doivent fonctionner, les règles de fonctionnement de la République centrafricaine. Nous chantons aujourd'hui l'hymne national de la République centrafricaine en française, mais ça a été traduit en sango, et quand les gens chantent cela, ils comprennent le sens de ce que nous disons dans notre hymne national et dans notre devise. Ça permettrait à ce que chacun puisse se conformer à la réalité de ce qui est dit dans les textes.
Quels sont les délais, selon vous, qui seront nécessaires pour mettre en place tout ce système, pour que le sango devienne une véritable langue bien utilisée dans le système de l'éducation?
Les plus hautes autorités du pays nous ont demandé au ministère de l'Éducation nationale de travailler sur l'introduction du sango comme seconde langue d'enseignement dans notre pays. Un comité technique est mis en place, constitué donc des cadres du ministère de l'Éducation nationale, de l'Institut linguistique appliqué de l'Université de Bangui, l'ILA, et les autres partenaires. Et le comité technique est en train de travailler sur donc l'élaboration d'un curriculum modulaire, assorti des manuels décodables pour le premier niveau d'enseignement, c'est-à-dire pour les classes de CICP. Et d'ici là, nous sommes en train d'identifier la formation des 250 enseignants qui seront donc formés à l'utilisation du nouveau curriculum de l'enseignement du sango et sur le manuel décodable. Et trois inspections académiques de la République centrafricaine ont été déjà identifiées, c'est-à-dire l'inspection académique de Bangui, l'inspection académique de l'Ouampéndé, c'est-à-dire de l'Ouampéndé et de l'Ouamfafa. Donc nous allons donc expérimenter l'enseignement du sango dans les 600 écoles que nous avons identifiées. Et après une année d'expérimentation, nous allons donc passer donc à la phase d'évaluation. Donc l'évaluation permettra à ce que nous puissions voir l'acquis des enfants qui ont appris en sango, et ça permettra aussi de voir si c'est positif. Nous allons donc vulgariser cela. Donc aujourd'hui, les plus hautes autorités du pays nous ont demandé de faire ce travail. Nous pensons que d'ici 2 ans, nous allons donc tenir le délai par rapport à l'expérimentation et nous allons continuer à vulgariser. Et ça nécessite beaucoup, beaucoup plus de moyens techniques et financiers pour permettre à ce que nous puissions éditer tous les manuels que nous utilisons aujourd'hui en français, en langue sango, traduire tous les documents d'enseignement, les fiches pédagogiques et autres en sango, et former les enseignants à l'utilisation de ce nouvel outil, et voir la possibilité d'introduire cela dans le cycle de formation des enseignants dans les études de formation qui sont donc l'ENI de Bambari, l'ENES et les centres pédagogiques régionaux, puisque le journaliste.
Le système colonial, dans son sens classique, n'existe plus. Mais on parle aujourd'hui en Afrique de néocolonialisme. Selon vous, que faut-il pour mettre en terme à cette dépendance des pays africains et de votre pays en particulier vis-à-vis de l'Occident?
C'est question de responsabilité de chaque État ou bien de chaque pays. Aujourd'hui, nous ne voulons plus à ce que, après la dépendance, le néocolonialisme continue à imposer sa volonté ou bien dicter sa volonté aux leaders africains ou aux leaders centrafricains. Aujourd'hui, ce qui est important, il va falloir que chaque État puisse définir ce qu'on appelle la vision de développement. Et cette vision de développement voudrait ce que chaque pays puisse se doter des institutions fortes. Des institutions fortes qui doivent donner l'occasion à ce qu'il y ait des formations. Vous savez, aujourd'hui, pour essayer de mettre de côté ce que vous venez de dire, c'est qu'il va falloir que nous puissions avoir des cadres responsables bien formés. Et il va falloir que les autorités puissent prendre leurs responsabilités pour donner des orientations et des axes de développement. Pour dire qu'aujourd'hui, nous avons des ressources, nous voulons à ce que ça soit développé, il va falloir que tous les fils du pays puissent voir l'intérêt du pays et non voir l'intérêt des autres. Parce que ce qui fait qu'aujourd'hui, les pays ne se développent pas, c'est parce que les autres veulent leur intérêt au détriment des pays qui regorgent ces résultats. Donc c'est une question de vision et d'objectif pour permettre à ce que les uns et les autres puissent avoir cette capacité de dire à un moment donné non. Arrêtons, discutons, partenariat gagnant-gagnant. Donc aujourd'hui, il va falloir que nous puissions arrêter ce que nous avons l'habitude de faire et voir la possibilité de mettre l'intérêt du développement du pays en place que de mettre en avant l'intérêt des pays occidentaux.
Merci beaucoup. Et toute dernière question, monsieur, pour cette fois. Dans le passé, l'Union soviétique a soutenu l'indépendance de, entre guillemets, jeunes États africains et a aidé à réaliser beaucoup de projets socio-économiques sur le continent. Aujourd'hui, la Russie cherche à intensifier les liens avec l'Afrique dans plusieurs domaines, et vous avez mentionné ça. À votre avis, à cette étape historique de développement du continent, quel rôle pourrait jouer la Russie dans le renforcement de la souveraineté africaine ?
D'abord, ce qui est important, il va falloir qu'aujourd'hui, la Russie, avant de commencer à penser au développement de souveraineté des pays, il va falloir qu'il y ait donc de la stabilité. C'est la stabilité qui doit donc être au centre de l'action de la Fédération de la Russie. Moi, je pense que pour la République centrafricaine, à un moment donné, nuit et été, l'intervention de la Russie, nous ne pouvons pas aujourd'hui vivre dans ce pays avec tout ce que nous avons connu comme désordre. Et du coup, l'intervention de la Russie aujourd'hui a calmé la situation. Les gens vaquent aujourd'hui à leurs occupations. Les écoles fonctionnent. Nous venons d'organiser le baccalauréat sur l'ensemble du pays. C'est parce qu'il y avait la sécurité. Donc, il va falloir mettre en place d'abord la stabilité, la sécurité qui est donc le socle de développement. Et après, penser à la formation, comme par le passé, l'Union soviétique a octroyé des bourses pour permettre à ce que les gens soient formés donc en médecine, les ingénieurs agronomes et autres, comme ça par le passé. Donc, il va falloir qu'il y ait d'abord la stabilité sur le plan sécurité. Et après, nous allons définir avec la Fédération de Russie les axes d'intervention. Donc, en éducation, et après, il faudrait qu'il y ait la santé, il faudrait qu'il y ait le développement rural et d'autres aspects, les mines et autres comme ça. Donc, ce qui est important aujourd'hui pour permettre à ce que la Russie puisse intensifier ses actions en République centrafricaine et en Afrique, il va falloir qu'il y ait donc ce qu'on appelle la stabilité. Il faudrait qu'il y ait, on demande aujourd'hui à la Russie d'être peut-être l'ange gardien de la Centrafrique ou bien de l'Afrique pour permettre à ce qu'il y ait les groupes armés qui sévissent disparaissent et que le pays amorce leur voie de développement. Et le développement des pays aujourd'hui, c'est l'éducation. Si l'éducation arrive à bien former les cadres, à bien remplir les conditions d'études, je crois que ça permettrait à ce que les autres secteurs puissent se développer parce que le vivier qui forme, ou bien le vivier du développement aujourd'hui qui regorge beaucoup plus de possibilités pour le développement, c'est l'éducation. C'est comme ça que nous disons qu'aujourd'hui, après la sécurisation de la République centrafricaine, il va falloir amorcer le développement de la République à travers l'éducation et d'autres secteurs où les plus hautes autorités du pays sont en train d'identifier et d'en débattre avec les responsables, les autorités de la Fédération de Russie pour que nous puissions amorcer cela. Donc nous, au niveau du ministère de l'Éducation, nous voulons à ce qu'il y ait cette coopération très bien renforcée aujourd'hui entre la Fédération de Russie, le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Éducation nationale, pour permettre à ce qu'il y ait des bourses, on augmente la capacité d'accueil pour que les étudiants centrafricains puissent aller en Russie se faire former. Et nous voudrons aussi, de l'autre côté, aujourd'hui nous avons les déficits, par exemple, dans le domaine de l'enseignement scientifique où nous voulons aujourd'hui, c'est que les enseignants de la Fédération de Russie qui interviennent dans le domaine scientifique, c'est-à-dire les mathématiques, les sciences physiques, sciences de la vie, de la terre et d'autres, puissent venir renforcer les capacités des enseignants centrafricains, intervenir dans les lycées et les collèges, parce que nous avons des carences à ce niveau. Ça permettra à ce que nous puissions mutualiser nos efforts dans ce cadre-là pour permettre à ce que la coopération puisse être renforcée. Et à travers cela, nous aurons à développer le pays avec la stabilité qui serait donc créée et le renforcement des capacités dans tous les domaines.
Je vous remercie, monsieur, pour cet entretien fascinant et très intéressant.
Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier du temps que vous avez accordé pour qu'on essaie d'échanger. Mais moi, je crois que le temps est parti court. Nous aurons donc l'occasion de continuer à poursuivre notre entretien. Et je souhaiterais à ce que peut-être nous puissions organiser peut-être une visite ou bien une mission d'échange avec tout ce que vous êtes en train de faire pour identifier ce que nous pouvons faire dans ce domaine pour nous permettre de renforcer notre coopération avec la Fédération de Russie sur les axes de développement.
C'était Samuel Feizouna Mouanfio, directeur général de l'Institut national de recherche et d'animation pédagogique du ministère de l'Éducation nationale de la RCA, pour Spoutnik Afrique. À l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance de la RCA, il est revenu sur l'importance de cette date avant de faire le point sur la situation linguistique dans le pays.
Suivez Spoutnik Afrique sur Maliba FM. Du lundi au vendredi à 19h, Spoutnik décryptera l'actualité africaine et internationale dans ses émissions Zone de Contact et Afrique en Marche. Politique, économie, défense, diplomatie. Des spécialistes de renom vous donneront une vision alternative à celle proposée par les médias mainstream. Du lundi au vendredi à 19h sur Maliba FM.
Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM depuis Bamako sur le 99.5 FM. Bienvenue à vous si vous venez tout juste de nous rejoindre. La préservation et la promotion des langues nationales et locales sont à l'ordre du jour dans de nombreux pays africains. La grande nouveauté de la nouvelle constitution du Mali, approuvée par 96,61% de la population lors du référendum du 18 juin dernier et promulguée le 22 juillet, est linguistique. Les 13 langues nationales du Mali sont désormais reconnues comme langue officielle et le français a été rétrogradé comme langue de travail. Un coup dur pour la France qui estime par l'intermédiaire de l'Observatoire de la langue française que le futur du français se joue sur le continent africain. Au micro de Spoutnik Afrique, Adama Samasekou, ex-ministre malien de l'Éducation nationale et secrétaire exécutif de l'Académie africaine des langues de l'Union africaine, a exposé les conséquences de ces changements dans le paysage linguistique malien. Écoutons-le tout de suite.
Suite à la promulgation de la nouvelle constitution au Mali, la langue française n'est plus considérée comme une langue officielle. Selon vous, comment ce changement se répercutera-t-il sur le paysage linguistique au Mali ?
Écoutez, c'est une décision extrêmement importante qui a été prise. Donc, on vient juste de promulguer la Constitution. Les changements ne sont pas pour le moment en cours. Mais déjà, d'ores et déjà, c'est une posture extrêmement importante pour le peuple malien qui a toujours voulu que ses langues identitaires soient ses langues officielles de travail, comme ce fut le cas sous nos empires, nos royaumes, dans notre longue tradition multiséculaire de construction étatique. Donc, c'est une excellente attente comblée. Maintenant, évidemment, le paysage linguistique du Mali va changer totalement à moyen et long terme, en ce sens que ça ouvre la porte à un vaste chantier d'instrumentation et d'instrumentalisation de nos langues nationales pour en faire de véritables langues de travail dans tous les domaines de la vie publique. Et ce chantier, il va concerner tous les secteurs de la vie publique et progressivement, évidemment, jusqu'à satisfaction. Le chantier le plus important, bien sûr, étant celui de l'éducation.
Le statut du français est donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, passer de celui de langue officielle à celui de langue de travail. Est-ce que vous pouvez expliquer pour nos auditeurs que signifie le statut de langue de travail au Mali ?
Langue de travail veut dire que c'est la langue de travail dans laquelle l'État travaille. Ça veut dire que quelque part, l'administration publique est concernée par l'État continue à utiliser la langue française comme langue de travail. Un pays où, comme le Mali, plus de 90% de la population, et là je suis généreux, ne maîtrise pas la langue française, ce pays ne peut pas avoir comme langue officielle une langue qui n'est pas la langue maternelle de la grande, très grande majorité, et plus encore d'ailleurs, de sa population. Donc dans ces conditions-là, c'est un acte politique très fort qui renvoie à, j'allais dire, à la restitution de la souveraineté linguistique du Mali. Donc de ce point de vue, c'est une différence fondamentale. Nous avons milité pour ce changement-là, nous, c'est-à-dire un réseau de militants de langue nationale. Nous pensons que c'est une phase de transition actuellement, transition linguistique, où, principe de réalité oblige, nous savons que nous allons pendant quelque temps continuer à utiliser la langue française comme langue de travail des principales administrations, des principales institutions du pays, jusqu'à ce que nos langues nationales instrumentées puissent être en mesure de prendre en charge cette fonction. Ce qui peut ne dépendre que de notre volonté et de notre capacité à mener à bout ce chantier. Pour moi, ne souffre d'aucun doute. Mais je dis tout de suite, et c'est important, peut-être ça viendra dans une autre question, le fait de remplacer la langue française par nos langues nationales ne veut nullement dire que nous sommes contre l'utilisation de la langue française. Nous privilégions l'utilisation de nos langues nationales, mais la langue française fait partie désormais de notre patrimoine historique et nous aide à commercer avec d'autres parties du monde, en particulier tous les espaces dits francophones de l'Afrique et tous les pays francophones du monde. Donc c'est un plus pour nous, mais que nous allons utiliser à sa juste place, pas au-dessus de nos langues nationales. Nos langues nationales sont prioritaires et elles demeureront prioritaires tout le temps.
En 1994, alors que vous étiez à la tête du ministère de l'Éducation, une réforme du système éducatif qui prévoyait l'introduction généralisée des langues nationales dans l'enseignement a commencé. Qu'en est-il aujourd'hui de l'enseignement en langue nationale et comment ce changement de statut du français va-t-il impacter ce processus ?
Écoutez, je dois commencer par dire qu'en réalité, il n'y a aucun doute que ce changement de statut de la langue française dans notre pays va impacter positivement sur le processus que nous avions entamé à l'époque d'introduction généralisée des langues nationales dans l'enseignement. Dans la mesure où, malheureusement, cette volonté que nous avions à l'époque, qui était liée à ce que nous avons appelé, pour la première fois d'ailleurs au Mali, peut-être même ailleurs, la refondation des systèmes éducatifs, c'est pour la première fois qu'on parlait de cela. Ce n'était pas une réforme, mais c'est une refondation en partant de l'héritage de la réforme emblématique de 1962, qui a été la première rupture avec le schéma colonial, rupture consacrée par la volonté du président Modibo Keïta et de ses compagnons, pour véritablement reprendre en main notre destin. L'éducation étant centrale, étant stratégique dans le développement d'un pays. Donc cette volonté de rupture avec le système colonial a eu beaucoup de dérives par la suite. Donc lorsque nous sommes venus aux affaires avec le président Konaré, après la révolution populaire et démocratique de mars 91, l'une des premières tâches pour nous c'était comment reprendre en main notre système éducatif. Donc assurer ce que nous avons nous appelé à l'époque la refondation du système, ça veut dire que ce n'est pas une réformette, c'est la continuité de la réforme de 62 qui prévoyait, outre le fait d'avoir un enseignement correspondant à nos réalités sociales, politiques, économiques et historiques, qui prévoyait d'utiliser nos langues nationales dans le système éducatif lorsque les conditions seraient remplies. Donc, nous avons estimé qu'en 1992, 93, 93 en particulier, quand je prenais les affaires, on avait les moyens d'utiliser nos langues nationales dans le système éducatif dans la mesure où, outre la volonté politique de reprendre en main notre système éducatif, il y avait aussi l'expérience très positive de l'alphabétisation fonctionnelle dont le Mali est un des pays pilotes lancé par l'UNESCO Donc, il y avait des résultats très positifs de cette alphabétisation fonctionnelle qui a convaincu les sceptiques que on ne peut pas ne pas utiliser nos langues nationales dans tout notre système éducatif. Et donc, l'expérience du non formel a amené les autorités de l'époque à tenter des expériences qu'ils ont appelées expérimentation à l'époque d'utilisation des langues nationales dans le système éducatif à partir de la pédagogie dite convergente, d'utilisation concomitante de la langue maternelle et du français. Donc nous avons bâti sur cela et nous avons entamé le processus en termes de réflexion, en termes de projet de refondation. Malheureusement, c'est demeuré dans une grande mesure un projet. Ça n'a pas pu se mettre en œuvre partout, mais le début de ce projet a fini de convaincre tout le monde que, effectivement, l'utilisation de la langue maternelle de l'apprenant crée les conditions à la fois de développement du génie de l'apprenant, mais aussi d'assises définitives de sa personnalité. Alors, malheureusement, donc, ce processus a été, j'allais dire, quelque part brouillé par un vaste programme décennal qui a vidé la refondation de sa substance première. Le changement de statut aujourd'hui de nos langues nationales, qui deviennent des langues officielles du Mali, eh bien, va permettre de reprendre ce chantier, de faire en sorte que, dans le secteur de l'éducation en particulier, nous puissions mobiliser toutes nos ressources, et elles sont nombreuses, et les ressources de nos partenaires qui vont nous accompagner parce qu'ils sont nos vrais amis, toutes nos ressources pour mettre en place, j'allais dire quelque part, une démarche pédagogique fondée sur la pratique d'un enseignement multilingue fondé sur la langue maternelle. Partout dans nos systèmes éducatifs, nous allons faire ce qui normalement devrait se faire partout dans le monde. Tous les pays qui se respectent, c'est comme ça qu'ils le font. L'enfant, quand il va à l'école, doit commencer et poursuivre son apprentissage d'abord dans la langue qu'il maîtrise dans sa famille, dans la langue dans laquelle il réfléchit, dans la langue qui est la sienne, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans toutes nos écoles de l'espace dit francophone. Ça veut dire que c'est une véritable seconde rupture que nous allons entreprendre, et ce que nous avons essayé de faire d'ailleurs en 94, c'était la seconde rupture après la première rupture de la réforme de 62. Cette rupture a été contrariée. Aujourd'hui, le fait que le français n'est plus la langue officielle du Mali, ça ouvre la porte, et que ce soit nos langues nationales qui soient les langues officielles, ça ouvre la porte pour remettre ce chantier à l'œuvre et que nous mobilisions tous pour que nous puissions, à moyen et long terme, atteindre les objectifs qui sont les nôtres depuis des siècles, c'est-à-dire travailler dans nos langues, valoriser nos langues, rester ouverts aux autres, parce que nous avons toujours été ouverts aux autres, nos pays ont toujours été ouverts aux autres, et apprendre plusieurs langues. Nous sommes d'ailleurs des pays à culture multilingue, donc nous ne sommes pas enfermés sur nous-mêmes, il n'y a pas de crispation identitaire dans nos pays, il y a plutôt un enracinement dans nos réalités et une ouverture aux autres. Et de ce point de vue, et comme je le dis souvent d'ailleurs, la langue française, faisant partie de notre patrimoine historique, pas culturel, mais historique, eh bien, cette langue française, nous allons continuer à l'utiliser tant que nous le souhaitons, tant que nous le voulons, et sans conflit avec nos langues, puisque la place de nos langues ne sera pas discutable. Elles sont la priorité de notre agir au quotidien.
Je vais revenir sur le dernier rapport de l'Organisation internationale de la francophonie. Dans ce document, il était expliqué que l'avenir de la langue française se jouer sur le continent africain. À votre avis, quel rôle devrait jouer le français dans votre pays et plus généralement sur l'ensemble du continent?
Vous savez, on peut rêver. Hein. Je ne nie pas aux responsables de l'Organisation internationale de la francophonie le droit de dire que l'avenir de la langue française se joue sur le continent africain. Soit, mais il faudrait bien savoir dans quelle perspective. Si l'idée, c'est de dire que tous les peuples africains ne vont parler et maîtriser que la langue française, eh bien, c'est peine perdue, parce que cela ne se passera jamais. Parce que la majorité de nos peuples n'est ni francophone, ni anglophone, ni lusophone, ni hispanophone, et quoi d'autre, elle est plutôt africanophone. La majorité de nos populations vit, travaille, parle les langues africaines. Le français n'est pas une langue africaine, c'est une langue héritée de la colonisation, qui a eu une volonté d'écraser et de faire disparaître nos langues. Avec le temps, avec la création de l'Organisation de la francophonie et l'évolution de cette organisation, une certaine sagesse a amené les différents acteurs de la francophonie à considérer que la francophonie se place plutôt dans une perspective de développement et de renforcement de la diversité linguistique et culturelle. Alors, je prends cette organisation au mot, et c'est ce que j'ai toujours fait, vous savez. J'ai été membre du Haut Conseil de la Francophonie, et partout où j'ai eu à parler de cette relation entre nos langues, j'ai toujours dit que si la francophonie, si le discours de la francophonie sur la diversité culturelle et linguistique se veut crédible, eh bien, il va falloir qu'à l'intérieur de l'espace dit francophone, que ce discours soit mis dans la pratique. C'est-à-dire le respect de nos langues, la diversité de l'espace francophone et que la langue française occupe la place qui est la sienne, qui n'est pas une place dans nos États, dans nos sociétés, qui n'est pas la langue maternelle de nos populations, mais qui est une langue héritée du système colonial et qui aujourd'hui, qui peut être considéré par nous comme effectivement une langue avec laquelle on peut commercer ou avec laquelle on peut faire un bon partenariat, pourvu que ce ne soit pas le partenariat du cheval et du cavalier, que ce soit un partenariat où nous sommes les cavaliers et que la langue qui peut être le cheval soit utilisée en fonction de notre volonté, notre désir. Donc, sur ce plan-là, oui, si la francophonie veut se développer en Afrique, il va falloir qu'elle compte avec les langues africaines. Et d'ailleurs, sous l'impulsion à l'initiative du président Konaré, l'Union africaine s'est dotée d'un instrument, l'Académie africaine des langues, que j'ai eu l'honneur de mettre en place à l'époque quand j'ai quitté le département de l'éducation, et la volonté de l'Académie africaine des langues, dont le siège est à Bamako, qui est une institution de l'Union africaine. La volonté, c'est de dire, la mission, c'est de dire, faire de toutes nos langues africaines des langues officielles de travail dans tous les domaines de la vie publique. Donc, c'est un instrument stratégique. Et tant qu'il va exister cet instrument, tant qu'il va se renforcer, il n'y aura pas de place pour une marginalisation de nos langues africaines. Donc, de ce point de vue, nous sommes prêts à établir des rapports de véritable partenariat entre la langue française et comme toute autre langue d'ailleurs étrangère à l'Afrique et nos langues nationales, dans la mesure où nous avons notre souveraineté linguistique et qu'il s'agit plutôt d'honorer la diversité culturelle et linguistique du monde, parce que nous sommes convaincus que cette diversité culturelle et linguistique est le bien public mondial par excellence de nos peuples, la richesse de nos peuples, tous les peuples du monde. Tant que nous allons promouvoir cette diversité culturelle et linguistique, nous allons pouvoir faire une sorte de bon commerce, au sens étymologique du terme, de bonnes relations, de bonnes coopérations avec tous les peuples du monde, dans le respect de l'identité de chacun. Et du reste, vous savez, j'ai coutume de dire que, en fait, le multilinguisme est à la culture, c'est que le multilatéralisme est à la politique. Si nous voulons créer un monde multipolaire, si nous voulons créer un monde où il y a un respect mutuel entre les États, entre les peuples, eh bien, nous sommes obligés de promouvoir et de défendre la diversité culturelle et linguistique, qui est en fait ce que la biodiversité est à la nature, c'est-à-dire le souffle qui fait vivre l'humanité et les sociétés humaines.
Alors donc le Mali, pour rappel, abrite l'une des plus anciennes universités du monde, l'université de Sankore à Tombouctou. Cependant, le système éducatif du pays a ensuite été influencé par les colonialistes, au moins jusqu'en 1962, date à laquelle une réforme a été entamée visant à éliminer les aspects les plus négatifs de ce système. Et on estime que la langue a une influence majeure sur la façon de penser et par conséquent sur les activités éducatives et scientifiques. Et donc, dans quelle mesure ce changement de statut du français pourrait-il avoir un impact sur la souveraineté éducative du Mali et sur le développement d'un système éducatif véritablement national ?
Merci encore pour cette question centrale. Vous savez, le Mali est un pays anciennement colonisé. Depuis la colonisation jusqu'à ce jour, s'est développé au Mali, comme dans la plupart des États anciennement colonisés par la France ou par d'autres colonisateurs ailleurs en Afrique, le système éducatif, notre école n'est pas notre école, pour ainsi dire. Le système éducatif que nous développons actuellement est un système en grande partie importé du schéma colonial. C'est pour cette raison que l'un des premiers actes posés à l'époque par le président Modibo Keïta, qui avec ses compagnons ont travaillé sur la souveraineté du Mali, c'était de revoir cette question du contenu de l'école, c'est revoir cette question même de la langue d'enseignement. À l'époque, les moyens n'étaient pas à disposition pour faire cette rupture linguistique, mais aujourd'hui, c'est autrement. Donc, en réalité, nos pays anciennement colonisés vivent un paradoxe inacceptable aujourd'hui au XXIe siècle. Nous sommes les seuls pays au monde où quand l'enfant va à l'école, il commence et poursuit son apprentissage dans une langue qu'il ne parle pas dans sa famille, dans une langue dans laquelle il ne pense même pas, il ne réfléchit même pas. Comment voulez-vous développer le génie créateur des enfants? Comment voulez-vous asseoir l'identité, la personnalité de l'enfant dans une langue étrangère? C'est impossible. D'ailleurs, toutes les études, si c'était à démontrer, je ne sais même pas pourquoi on parle d'une question qui est une question de bon sens, toutes les études psychologiques, psychopédagogiques, sur la question linguistique montre que l'enfant, évidemment, au moins dans les 6 premières années, développe ses compétences scientifiques, psychomoteurs, psychologiques, le mieux dans sa langue maternelle. Donc, comment peut-on faire cette agression, j'allais dire criminelle, à l'enfant en l'obligeant à découvrir une langue du point de vue à la fois du son, de l'écriture et du sens, et l'obliger à apprendre dans cette langue-là depuis la maternelle, disons. Donc, évidemment, on me dira tout de suite, mais vous, vous parlez bien la langue française. Oui, mais nous sommes sortis du lot. Mais combien sont restés? Comme le disait mon aîné et ami, paix à son âme, le professeur Kizerbo, ce que nous avons entrepris au Mali à l'époque, ce n'était pas une réformette, c'était une véritable refondation. Parce que combien nous coûte le système tel qu'il est pratiqué actuellement, puisque combien de génies meurent pratiquement avant d'éclore dans ce système hérité de la colonisation. Donc, en réalité, le Mali a voulu depuis longtemps retrouver sa souveraineté éducative. Alors, aujourd'hui, on dit en russe « skatertul daroga », da, « skatertul daroga ». Aujourd'hui, la voie est totalement ouverte avec cet article 31 de la nouvelle constitution qui stipule que les langues nationales du Mali sont les langues officielles. Donc, de ce point de vue, il ne revient qu'à nous de nous mettre à la tâche, de nous remettre à la tâche et de développer tous les outils, les instruments nécessaires pour que notre souveraineté éducative soit une réalité. Et que, comme tous les pays du monde, tous les pays qui se respectent, quand nos enfants vont à l'école, ils commencent et poursuivent leur formation, leur apprentissage dans la langue qu'ils maîtrisent dans leur famille. Ce qui permet aussi de combler la grave rupture aujourd'hui entre l'enfant africain qui va dans ce système et la communauté éducative qui l'entoure, où les parents, en général, sont analphabètes en français, donc ne peuvent même pas accompagner les enfants dans leurs exercices comme ça se fait dans tous les pays du monde. Donc ce retard programmé, conçu, voulu, va désormais être un vieux souvenir. Je ne sais pas quand, mais ce qui est certain, c'est que ça va l'être à moyen, à long terme, peut-être même plus tôt qu'on ne le pense, parce que avec les technologies d'information et de la communication aujourd'hui, nous avons des ressources extrêmement puissantes pour pouvoir, j'allais dire, faire les sauts nécessaires afin de rapidement changer cette situation inique et inacceptable au XXIe siècle. Donc, je ne me pose pas de la question de savoir dans quelle mesure ce changement de statut pourrait avoir un impact sur la souveraineté. Il a nécessairement un impact parce qu'il restaure la réalité des situations, c'est-à-dire ce qui n'aurait jamais dû cesser d'être, n'eût été l'esclavagisme et la colonisation, c'est-à-dire que nos sociétés, nos peuples vont se développer avec leur langue, commercer avec les autres dans leur langue, en utilisant tous les moyens d'interprétation, de traduction que nous allons développer avec les pays avec lesquels nous allons avoir une coopération saine. Donc cette aberration que nous vivons depuis près d'un siècle, pour certains, mais pour nous depuis plus de 60 ans, est quelque chose qui désormais sera derrière nous, en tout cas en ce qui concerne le Mali. Et c'est une volonté très ferme du peuple malien. Et rien ne pourra l'ébranler, puisque même par la grâce de Dieu, cette volonté aujourd'hui peut s'afficher et s'affirmer.
Je vais terminer avec une dernière question. Ces dernières années, Moscou augmente progressivement le nombre de bourses russes pour les étudiants africains. On l'a vu en février dernier, lorsque Sergueï Lavrov s'est déplacé au Mali et il avait annoncé un doublement des bourses, du quota de bourse qui était accordé aux étudiants maliens. Et cette dynamique se traduit également avec une volonté d'élargir les contacts et les projets dans ce domaine. Et dans ce contexte, comment voyez-vous l'avenir de la langue russe au Mali et sur le continent en général?
Merci beaucoup pour cette question très intéressante et très pertinente. Vous savez, je dois dire d'entrée de jeu que l'avenir de la langue russe sur le continent africain, au Mali sur le continent, dépend d'abord de la Russie elle-même. Si la Russie développe une politique intelligente de coopération sincère et vraie avec le Mali, avec l'Afrique, eh bien, il n'y a aucune raison que cet avenir ne soit pas radieux. D'abord parce que, comme je l'ai dit, l'Afrique est un pays multilingue. L'Afrique est un pays qui s'est toujours vu enraciné dans sa culture et ouvert aux autres. Donc, elle peut accueillir toutes les langues du monde. D'ailleurs, elle a le tiers des langues du monde aujourd'hui. Sur les 7000 langues, 2000 sont en Afrique. Donc, l'Afrique ne s'est jamais enfermée sur elle-même. Et donc, tout le monde a de la place ici. Ça dépend donc d'abord de la vision même de la Russie et de sa politique concrète. Ça dépend aussi de l'état du Mali. Ça dépend aussi de l'Afrique. En ce qui concerne le Mali, nous avons le privilège d'être parmi les pays qui ont développé l'une des plus grandes coopérations avec la Russie depuis notre indépendance. Et nous avons dans notre pays plus de 10 000 Maliennes et Maliens qui ont fait leurs études en Union soviétique et en Russie. Donc, il y a un potentiel extraordinaire que le Mali peut développer, dans la mesure où déjà le Mali, dans sa politique linguistique, prône le multilinguisme fonctionnel convivial comme base de cette politique linguistique. Ça veut dire que, comme je l'ai dit par rapport au système éducatif, par exemple, nous allons poursuivre notre quête de mettre en place un enseignement multilingue fondé sur la langue maternelle. Ça veut dire que partout où la langue maternelle doit être mise en place, dès l'abord, cela se fera. Plus tard, dans l'ensemble du système éducatif, l'enfant aura le choix de pratiquer telle ou telle langue, y compris les langues internationales étrangères, donc y compris la langue russe. Et donc tout cela pourra se faire de manière, j'allais dire, très conviviale et surtout très policée et très cohérente. Voilà, parce que nos amis auront les premières places dans ce processus. Donc le potentiel que nous avons déjà ici devra être davantage renforcé, développé. C'est pas seulement les questions de bourse dont a parlé le ministre des Affaires étrangères de Russie. Pour moi, il faut aller au-delà. Il faut que le potentiel que représentent les plus de 10 000 diplômés de l'ancienne URSS et de la Russie, il faut que ces diplômés puissent avoir un espace où ils peuvent continuer à garder des relations fructueuses avec leurs universités de base, développer même entre les différentes institutions de recherche, entre les différentes académies, une coopération scientifique et technique qui va élargir nos horizons de coopération dans ce domaine-là et ne pas nous cantonner à simplement un monde, le monde occidental, parce que nous estimons que c'est dans la diversité que le monde, l'humanité se consolide. Et donc, nous nous donnons les moyens de diversifier notre coopération. Et c'est heureux que nous ayons un potentiel déjà en ce qui concerne la langue russe, parce que nous la maîtrisons tous plus ou moins, ces 10 000 anciens de l'URSS et de la Russie. Donc, de ce point de vue, si je dois conclure sur cette question, je pense que les perspectives sont très bonnes. Moi, mon rêve, et je le dis vraiment avec beaucoup de conviction, c'est que nous puissions, dans les prochaines années, enfin réaliser le projet que j'avais à l'époque soumis même à l'UNESCO et qui n'a pas pu aboutir, parce que je voulais que l'UNESCO soit porteur de ce projet pour les Nations Unies, c'est-à-dire organiser un sommet mondial sur le multilinguisme. Aujourd'hui, avec la dynamique nouvelle, avec le nouvel ordre qui est en train de s'installer dans le monde, je verrais bien la Russie promouvoir cela avec l'Afrique et qu'on puisse ensemble organiser un sommet mondial sur le multilinguisme. L'Afrique étant ce continent qui détient le tiers des langues du monde, mais où en même temps les langues africaines sont marginalisées dans tous les pays africains, ou presque. Et donc, de ce point de vue, nous gagnerons beaucoup à ce qu'on puisse restaurer à nos langues leur dignité. Et je sais aussi que la Russie et tous les États qui étaient dans l'ancienne URSS gagneraient aussi à développer les langues natales des différentes régions. Et je sais d'ailleurs qu'il y a un projet de ce genre. Donc, nous avons là un chantier que nous pouvons bâtir ensemble.
Merci beaucoup, Monsieur Samasekou, d'avoir accordé cette interview.
Je vous en prie. C'était un plaisir. Vous savez, quand vous interrogez quelqu'un qui se vit comme un patriote, un militant des langues africaines depuis des lustres, eh bien, vous lui procurez un vrai bonheur de partager ses convictions, et ce fut le cas. J'ai coutume de dire, je voudrais que cela soit très clair pour vos auditeurs et pour tout ce qui peut vous entendre et m'entendre. Nous ne sommes contre aucune langue au monde. Non, nous sommes ouverts à toutes les langues. En fait, c'est un combat de linguistes, mais aussi de politique. C'est-à-dire que c'est un combat identitaire,
bien sûr,
combat de souveraineté, Donc, de ce point de vue, ceux qui peuvent mener ce combat-là sont ceux qui partagent la même vision du monde. Le monde ne peut pas être unipolaire. Le monde est une diversité en soi. Et si nous voulons préserver cette humanité, ce monde, il faudrait que nous respections cette diversité et que même nous la prônions et que nous la rendions féconde pour le plus bien, le grand bien de l'humanité. Voilà.
C'était Adama Samasekou, ancien ministre de l'Éducation nationale du Mali et secrétaire exécutif de l'Académie africaine des langues de l'Union africaine pour Sputnik Afrique. Il a exposé les changements qui sont attendus au Mali suite à l'exclusion du français du statut de langue officielle. À l'occasion du sommet Russie-Afrique, il s'est également exprimé sur l'avenir de la langue russe au Mali et sur le continent africain. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, Sputnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne très vite rendez-vous pour un nouveau numéro de Zone de Contact. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Maliba FM, nous vous rendons dès à présent l'antenne.
Zone de Contact, une émission de Sputnik Afrique.